Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, Tia Janke. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, j'innove un petit peu. Parfois, j'ai fait des cinéastes connus comme Hitchcock, John Ford, Clint Eastwood, ou des actrices réalisatrices comme Sandrine Kimmerlin, Agnès Jaoui. Mais aujourd'hui, un cinéaste chinois. Voilà. Alors, je précise la prononciation et l'orthographe. L'orthographe, c'est J-I-A, plus loin Z-A-N-G-K-E, et on dit donc Tia Janke. Les mots se modifient, s'orthographient différemment. On disait autrefois Mao Tse-Tung, et puis on s'est mis à dire Mao Zedong. Donc, la prononciation est celle-là. Alors, il s'agit de cinéma asiatique. Ce cinéma asiatique est arrivé en France dans les années 50. Mais ce cinéma asiatique, c'était le cinéma japonais. On a évoqué Akira Kurosawa dans une émission précédente. Il y avait deux autres réalisateurs qui, chacun, avaient son genre différent. C'était Mizoguchi, qui, lui, était axé sur la dimension fantastique, poétique, etc. Et Ozu, qui lui était axé sur la dimension familiale, les rapports à l'intérieur de la famille, les parents, les enfants, le père, la fille, les grands-parents, même dans Voyage à Tokyo, ce qui était assez novateur. Donc ce cinéma japonais était, on pourrait dire, le seul cinéma asiatique connu, à quelques exceptions près. Or, ces dernières années, on peut dire que le cinéma asiatique a explosé. On peut dater ça des années 80-90. Avec d'autres pays, le cinéma chinois, le cinéma coréen. Alors dans le cinéma coréen, pas mal de films sortent chaque année et nous avons eu une palme d'or qui avait été faite pour Parasite. Donc ce cinéma asiatique a évolué. Donc je reviens en quelque sorte sur l'ancêtre, c'est-à-dire Kurosawa, dont on connaît les sept samouraïs, dont voici quelques notes. Par une diversité de réalisateurs, mais le problème c'est qu'ils ont eu affaire à une censure constante. Effectivement, on parle de plusieurs générations de réalisateurs, mais la Chine a toujours été un régime, on peut dire, totalitaire. Pour résumer les trois catégories de régimes autoritaires, il y a la dictature, vous obéissez, autrement vous êtes fusillé, vous allez en prison. Le régime totalitaire du type stalinien ou maoïste, il faut avoir une obéissance et adhérer, faire parfois repentance et être fusillé si on n'a pas respecté ce catéchisme. Et les régimes théocratiques, eux, ont une référence biblique. Donc en Chine, c'est un régime totalitaire et le poids de l'État est extrêmement fort. Certains ont cru, lorsque Mao a parlé de révolution culturelle, qu'il s'agissait d'une véritable évolution. En réalité, il a rétabli une dictature très forte. Et on peut dire que depuis, la Chine n'a pas quitté de dictature, même si elle présente une apparence. Donc si j'insiste là-dessus, c'est parce que le cinéma est à certaines périodes totalement entre les mains de l'État. Il y a une totale censure. Parfois, un réalisateur ou deux ou trois réalisateurs peuvent s'échapper, mais en louvoyant, en essayant de tromper le régime, en présentant des scénarios qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, ce cinéma chinois, et on a avec Tian Zhangke une parfaite représentation, est un cinéma qui, exceptionnellement, sera un cinéma qui glorifie l'État. Hein, dans les années 50-60, il y a des films de propagande et de fiction qui glorifient l'État. Mais ce vers quoi vont aller les cinéastes les plus récents, c'est vers une critique du régime. Et forcément, cette critique du régime ne va pas plaire à tout le monde. Alors, parmi les cinémas asiatiques et le cinéma coréen, et je n'ai pas résisté au plaisir de mettre cette musique, Palme d'Or, c'est-à-dire Parasite, Parasite de Bong Joon-ho, qui a tourné pas mal de films autres, The Host, Le Transpersonnage, mais Parasite est absolument magnifique. Donc, Tia Zhangke est un cinéaste, dit-on, de la sixième génération. Parce qu'on a essayé de décortiquer depuis les années 40-50 plusieurs générations de réalisateurs. Et la sixième génération va réussir à jouer avec la censure, à échapper avec la censure, à échapper à la censure. Donc, cette sixième génération est porteuse d'espoir. Même si elle va se voir encadrée ou limitée ou censurée par les pouvoirs publics. Chez ce réalisateur, il y a une dimension documentaire. C'est-à-dire que, on va le voir tout à l'heure, je vais évoquer trois ou quatre de ses films, il y a chaque fois une prise en compte de la réalité sociologique, de la réalité sociale. Donc on a une mise en place souvent d'une critique de la société, d'une difficulté sociale, de difficultés sociales et indirectement de critiques sociales. Et c'est ce que n'apprécient pas le pouvoir. Alors pour montrer que Chia Zhongke a une portée sociologique, sociale, il faut souligner qu'il a quand même tourné sur une dizaine de films, il a tourné 4 films documentaires. Donc 4 films documentaires qui visaient à observer telle ou telle situation. Ce qui veut dire qu'on a, avec ce réalisateur, une volonté de ne pas être soumis à, de ne pas être en quelque sorte, expression on peut dire, béni oui-oui, c'est-à-dire celui qui obéit, celui qui accepte la censure. Et ces difficultés à la censure, il les a connues. Parfois, certains de ces films sont connus, sont présentés à l'étranger, mais ne sont pas diffusés en Chine. C'est tout le problème des régimes autoritaires ou totalitaires. Il s'agit chaque fois de vouloir une bonne représentation par les réalisateurs de la situation de l'État. Et s'il y a une critique, cela n'est pas acceptable. Donc, comme je vous le disais, il faut jouer avec la censure, accepter parfois de ne pas être diffusé en Chine. Alors même qu'on a obtenu un visa pour le scénario, on ne peut pas diffuser le film. Alors, ce réalisateur, donc toujours Jia Zhongke, je ne le prononce pas pour éviter de me tromper parfois, il est fidèle à certains collaborateurs. Il a surtout une actrice principale qui est Xiao Tao, qui est en fait sa femme. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Hein, tous les réalisateurs ont fait tourner leurs épouses. Sacha Guitry est marié 5 fois, il fait tourner ses 5 épouses. Marcel Pagnol fait tourner Arouane de Mazis, Josette D et Jacqueline Pagnol. On a parfois un seul couple, comme Guédi Guillain et Scarine, ou Joël Cohen et Frances McDormand. Donc la collaboration de couple n'est pas unique. En Chine, il y a un couple connu, c'est Gong Li et Zhang Yimou, qui vont être célèbres pour un film qui sort en 1990, qui est « Épouse et concubine ». Encore une fois, ces remarques permettent de soulever, de remarquer que la position de ce cinéma asiatique a été en progressant. Donc le cinéma s'est développé. Alors si l'on revient sur notre réalisateur, Chia Zhongke, il a fait son école à l'Académie de Pékin. Et il va présenter un film de fin d'études, comme ça, ça arrive souvent, hein, c'était le cas pour Scorsese notamment, qui va être ensuite présenté dans les salles. Ce premier film, donc, qui date de 1997, s'appelle Xiaowu, artisan pickpocket. Déjà dans le titre, vous avez toute la dimension du film. C'est-à-dire, il y a une volonté de réalisme dans la description, une volonté de critique sociale, il y a une image terrible qui est donnée de la Chine. Donc, c'est déjà dans un premier film une volonté de ce réalisateur de manifester une critique sociale, de montrer que les choses ne vont pas aussi bien que le prétendraient les tenants du régime, les chefs politiques. Donc voilà, premier film, déjà une critique sociale. Alors ensuite, je sélectionne un petit peu parmi les films et je vais vite pour ensuite se focaliser sur les trois les plus importants à mon avis. Donc il y a ensuite Plateforme qui est présenté ensuite en 2000 et qui va montrer que là encore il y a une difficulté sociale et la censure à ce moment-là interviendra et les autorisations sont accordées puis après on revient en arrière. Donc c'est toute la manière dont le régime fait des allers-retours entre j'autorise ou j'autorise pas. Hein, donc toujours cette dimension qui peut être critique. Ensuite, il y a The World, c'est un examen dans un contexte de libéralisation du cinéma, ce qui veut dire que là, on peut essayer d'avancer un petit peu et de ne pas être en permanence sanctionné. Donc il y a la volonté, pour une fois, de réaliser un film qui est plus abordable. Les premiers films qu'il avait tournés ont une audience assez limitée. Et celui-là a une audience un petit peu plus large. C'est ce qui se passera au fur et à mesure que l'on avance dans la carrière de ce réalisateur. Alors après, il y a Still Life, dont il faut souligner qu'il a été le Lion d'Or à Venise 2006. Donc vous voyez que l'audience du cinéaste est telle qu'on va lui accorder des prix. Donc présence dans ces festivals, Festival de Cannes, Festival de Venise. Et la dimension sociale de Still Life est claire. Il y a deux histoires. Alors on verra un peu plus loin qu'il y a un film où il y a quatre histoires. Donc, deux histoires avec une femme qui recherche son mari et de l'autre, un mineur qui voudrait retrouver sa femme qu'il n'a pas vue. Donc, c'est un croisement d'histoires avec toujours cette même dimension, la dureté de la vie, la difficulté à fonctionner, etc. etc. Alors, ces films ont déjà sont reçus bien par le public français ou européen. Et je mets la musique tout de suite d'un film que l'on évoquera ensuite, qui est Au-delà des montagnes. Au-delà des montagnes, qui est vraiment un très très bon film, et dont on écoute ici la musique. On a affaire là à une analyse, encore une fois, sociale, mais avec beaucoup de psychologie, de rapports humains, de couples qui se forment et qui se défont, de gens qui se ratent souvent. Donc c'est, on peut dire, c'est pas des films gays, vous n'allez pas rire si vous voyez ces films-là. Et sur les trois, j'en ai un préféré que je vous citerai en deuxième. Donc le premier d'abord, parmi ces trois films, c'est A Touch of Sin. Alors ce film-là qui sort en 2013, va comporter quatre récits qui sont des faits divers en fait. Alors c'est chaque fois une sorte d'échec, de volonté de vengeance contre une société qui écrase, mais ça ne marche pas. Donc on a un premier récit où un mineur va se révolter et il va assurer cette violence, il va utiliser des armes, etc. Donc violence qui est inattendu chez Jiang Zhangke, puisque jusque-là, il n'avait pas abordé de manière aussi forte ce thème de la violence. Dans un autre récit, dans le second récit, c'est un homme qui va, pour faire vivre sa famille, faire des braquages. Et donc on le suit dans ses braquages à travers le pays. Le troisième récit, alors là il est très situé, il est situé dans un sauna, dans un établissement qui va proposer des saunas, et une des employées se retrouve soudain harcelée par un des clients. Ça veut dire que les clients disent « j'ai payé, je fais ce que je veux ». Donc il l'agresse, il la violente, elle refuse, elle le repousse, et on voit là vraiment l'image de la femme qui est dévalorisée, que l'on finit par considérer comme une sorte de marchandise, donc violence de la critique sociale. Et le quatrième récit n'est pas plus gai, hein, parce que là, c'est un jeune, donc c'est un individu qui est plus jeune que les autres, et qui va aller d'un travail à un autre, passer d'une difficulté à une autre, et finalement qui va, alors c'est pas gai, effectivement, qui va se suicider. Voilà. Donc ce film a, je dirais, une beauté formelle, et puis cette démonstration sur la difficulté sociale à vivre en Chine. Et là, elle est vraiment poussée, puisqu'il y a l'utilisation d'armes dans les deux premières histoires, et il y a dans la quatrième histoire, le suicide. Donc la solution dans le quatrième épisode, c'est le suicide. Donc vous voyez que on a ici des difficultés à vivre et à exister dans une société totalitaire où les problèmes sociaux existent mais sont cachés, où on ne veut pas montrer la face noire de l'État chinois. Deuxième film, Au-delà des montagnes. Alors celui-là va sortir en 2015, et il est particulièrement impressionnant par l'évolution qui est faite sur des dizaines d'années de certains personnages et leur transformation. Donc on a d'abord une jeune fille au début du film qui a deux prétendants, l'un qui est plutôt modeste et quand même plus sympathique peut-être, et l'autre qui est riche, et donc elle va hésiter, elle va choisir le riche, faisant un calcul finalement, non pas sentimental mais matériel. Alors on va voir ensuite que tout ne va pas bien se passer, puisque la jeune femme qui est au centre du film va divorcer, et elle va se trouver dans des situations financières délicates. Et donc, le problème, c'est celui d'arriver à mettre en place un mécanisme où elle puisse survivre socialement, avec des fois des références à d'autres États, à des États anglo-saxons. Et elle est à la fois dans cette position où elle a recherché la tranquillité matérielle, mais finalement où le bonheur n'existe pas, si tant est que le bonheur puisse exister. Alors ce qui est très fort dans le film, c'est la fin de celui-ci. C'est-à-dire cette femme qu'on suit sur plusieurs dizaines d'années, en réalité on va la suivre sur 20-25 ans. La fin se situe au-delà de la date à laquelle est tourné le film. Le film est présenté en 2015 et la fin est située en 2025. Et donc, on va voir cette femme qui a beaucoup souffert, beaucoup évolué, tout d'un coup se mettre à danser, et c'est la fin du film. Donc, cette danse qui est le soubassement fondé en fait sur la position sociale de cette femme est vraiment c'est très émouvant, et c'est vraiment un film que je vous recommande parce qu'il est remarquable, vraiment admirable sur la temporalité. Vous avez des cinéastes remarquables sur la temporalité comme Visconti par exemple, qui ont fait des films extraordinaires, mais Au-delà des montagnes, c'est vraiment un grand film. Alors il n'a pas eu de Palme d'Or comme Parasite ou comme des films de Visconti, mais il a vraiment un thème, une situation qui est très très forte. Il est présenté au Festival de Cannes et il n'aura pas de prix qui pourrait le distinguer des autres. Voilà, alors Au-delà des montagnes, vraiment c'est le meilleur film des trois. Donc c'était Touch of Sin, Au-delà des montagnes, et après ce sera Les Éternels. Donc justement, Les Éternels, nous allons écouter la musique.
始终浅醉在心里。
来，兄弟们，五湖四海皆是你。
敢大想走，
敢大想走，
做一个，走。
Les Éternels, donc film de 2018, le plus récent qui a été distribué en France. Alors, pour essayer de résumer une intrigue qui est assez complexe, nous avons un couple, c'est-à-dire un mafieux, si on peut dire, un chef de pègre, et qui a une maîtresse. Le couple règne sur un groupe donc mafieux, et on a... Le héros qui s'appelle Bean, qui est en position de parrain, si je puis dire, même si lui-même a au-dessus de lui un parrain supérieur, si je puis dire. Donc, le couple existe, il est heureux, mais à un moment donné, il est attaqué par une bande de rivales. Et la femme, donc, va utiliser un pistolet et elle va tirer sur une personne. Ils sont tous les deux... condamné, sauf que lui est condamné à une peine faible qui est de 1 an et elle est condamnée à 5 ans. Quand elle sort, le problème, c'est que mafieux a trouvé une autre femme et l'héroïne est désemparée. Elle est désemparée en pensant qu'elle avait rendu service en quelque sorte en écopant de la prison à la place de son compagnon. Mais lui, le problème qu'il a, c'est qu'il va se retrouver en chaise roulante. Alors, effectivement, on ne connaît pas tous les détails. Et il va, de ce fait, être dévalorisé, traité comme n'importe quoi par son ancien groupe qui lui obéissait. Donc, le cheminement est difficile. Et le couple commence à se rapprocher. Et puis, il y a la fin. Un départ sans explication. On a le mafieux donc qui va téléphoner et dire bon mais voilà on se sépare. Et l'expression les éternels est peut-être une expression un petit peu ironique pour dire regardez sur une vingtaine d'années on le suit, mais il y a sur cette vingtaine d'années des difficultés, des problèmes, et rien n'est éternel. Et ce couple que peut-être la jeune femme pensait solide, ben finalement il ne l'est pas. Et même quand il est abandonné, qu'il est paralysé, qu'il est sur un fauteuil roulant, elle revient, mais lui s'en va. Et chaque fois, il n'y a pas d'explication véritablement développée, d'explication crédible. On suit la vie qui marche, et puis il y a ces dysfonctionnements, et on peut dire ces malheurs. Finalement, la tristesse est quand même présente de manière très forte chez ce réalisateur. On peut dire que face aux difficultés sociales, aux difficultés économiques, la vie en société n'arrive pas au bonheur. Le bonheur, on pourrait dire, n'existe pas. En tout cas, dans les films de ce réalisateur, le bonheur n'existe pas. Et l'image est très noire, toujours très noire. C'est pour ça qu'on peut dire... qu'il y a une difficulté pour le pouvoir à accepter cela, parce que le pouvoir ne veut pas reconnaître qu'il y a cette difficulté sociale, mais il voudrait au contraire nous faire croire que la société chinoise marche très bien. Donc si vous voulez, l'intérêt de ce cinéaste, c'est qu'il est représentatif de la société chinoise, avec tous ses problèmes, et qu'il est aussi un grand réalisateur, avec des sentiments, une émotion. Et je reviens sur cette scène, au-delà des montagnes, à la fin, cette danse par le personnage principal est vraiment déchirante par rapport à ce qui a pu se passer jusque-là. Voilà, pour une fois, vous voyez que j'ai utilisé, ou plutôt j'ai axé mon exposé sur un cinéaste que vous ne connaissiez peut-être pas, mais si vous avez vu Parasite, si ça vous a plu, eh bien, allez voir Au-delà des montagnes, qui est un film remarquable, même si les deux autres sont quand même très bien. Voilà, à bientôt. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Shelly. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.